Emmanuel Picot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président d'Evolis, on va parler avec vous de votre actualité après la publication des résultats. Une année 2018 en demi-teinte avec une difficulté au premier semestre, clairement, qui avait été indiquée, mais ça s'est amélioré au second semestre. Quels enseignements vous en tirez?
Alors, effectivement, un premier semestre un petit peu plus compliqué que nous ne le pensions. Une deuxième activité ou un deuxième semestre plus dynamique, notamment principalement dû à l'activité projet, avec deux gros projets qui nous ont un peu boosté, notamment un sur l'activité Edikio sur une grande enseigne en Allemagne, et puis un grand projet que nous avons gagné premier semestre, mais délivré et facturé sur le deuxième semestre en Inde, autour de nouveaux concepts de kiosques. Et donc, ceci adossé à une activité réseau qui s'est un petit peu mieux comporté sur le deuxième semestre, fait qu'effectivement le deuxième semestre s'est un petit peu mieux comporté que le premier, et tant mieux, on en est tous ravis.
Ce qui s'est passé dans votre activité, c'est il y a eu des reports, il y a eu du côté des clients, qu'est-ce qui a pesé
Ben
le
vous savez,
plus?
on a une activité qui est à la fois réseau et projet. Réseau, je dirais que c'est le flow, le quotidien, alors en fonction effectivement de certains paramètres. On peut avoir une activité qui fluctue un petit peu, mais globalement, elle est à peu près stable, cette activité dans le monde, cette activité réseau. Mais la deuxième partie de notre activité, elle est projet. Et les projets, on les gagne ou on les perd. Donc, d'être deuxième, ça ne sert à rien. Ça, c'est un premier paramètre. Et le deuxième paramètre, c'est que généralement, les projets sont, pour une part en tout cas, des projets gouvernementaux. Et donc, on est quand même très, très tributaire, des gouvernements en place. Deux, des décisions qui sont quelquefois reportées, effectivement un petit peu plus longues. Et à partir du moment où il y a une décision, quelquefois la mise en œuvre, c'est-à-dire la livraison, la facturation pour nous, très concrètement, de ces projets-là, peut prendre effectivement un petit peu plus de temps.
Du côté des zones géographiques, on voit qu'aux États-Unis, ça a été mieux. Il y avait une réorganisation aussi, on en avait parlé ensemble. Donc, aux États-Unis, le marché, comment vous l'avez perçu?
Alors, effectivement, en 2017, on avait réorganisé toute la structure Nord-Amérique, qui a mis un petit peu de temps aussi. Ça fait partie des facteurs dont il faut tenir compte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous réorganisez quelque chose, il y a toujours un temps de latence par rapport au moment où ça commence vraiment à donner ses fruits. Et donc ce premier semestre fait aussi partie de cela. Au deuxième semestre, on a bien vu que l'activité réseau et également projet était plus dynamique sur le marché américain, nord-américain. Et aujourd'hui, l'équipe est en place, l'équipe est formée, l'équipe est opérationnelle. Et on pense très clairement que en 2019, le Nord-Amérique est un des facteurs de croissance de l'entreprise.
Il y avait aussi le marché indien. Comment se porte-t-il?
Alors plus compliqué l'Inde,
Oui.
parce qu'on a effectivement réorganisé dans le même moment la structure indienne. Alors, plus compliqué parce que là encore, notre activité, principalement sur ce marché-là, est une activité de projet. 60%, et que il faut absolument que nous ayons une montée en puissance de l'ensemble des réseaux. Ça prend du temps de monter des réseaux, ça prend du temps de pouvoir retrouver les bonnes personnes au bon endroit pour pouvoir avoir les relais de croissance que nous voulons avoir sur ce pays-là. Et comme, malheureusement, nous avons eu la perte d'un projet important, carte Adar, sur le premier semestre 2018, compensé certes par un deuxième projet sur la deuxième partie de l'année, mais nous avons rattrapé la perte du premier projet, mais on n'a pas généré de croissance, et ça reste encore une activité sur l'année 2018. Bien orienté projet, notre challenge, je le disais, et de pouvoir développer une activité réseau beaucoup plus forte et beaucoup plus récurrente.
Quand vous regardez vos différents marchés, justement, les projets que vous pouvez avoir avec le gouvernement, ce que vous avez pu faire aussi dans le secteur bancaire, le fond des projets, il y a une vraie demande sur le fond. Il peut y avoir, voilà, c'est ce type de, je dirais, d'aléas, mais sur le fond, il peut y avoir une vraie croissance à l'avenir.
Alors, on a toujours un pipe projet très très dynamique. Et à la fois, quelles que soient les zones géographiques et quels que soient les segments de marché. Parce que je parle là des marchés, que ce soit gouvernementaux, bancaires, mais on a le marché du transport, on a des projets dans le monde de la grande distribution avec Edikio notamment. Donc en fait, on a essayé de diversifier à la fois nos segments de marché et à la fois nos zones géographiques pour justement nous limiter par rapport aux risques que nous pouvons avoir, soit sur une zone, soit sur un segment de marché. Donc oui, le pipe est toujours assez dynamique, même si on voit très clairement que les projets ne sont pas aussi de grande envergure, je dirais, que certains projets que nous avons pu avoir. Donc là, c'est plutôt la cerise sur le gâteau, mais on a effectivement encore un pipe projet assez dynamique. Est-ce que on va doubler la taille de l'entreprise avec ces projets? J'en suis pas sûr. Et c'est pas forcément là où on va avoir une perspective de croissance forte. Je crois qu'il faut que dans les perspectives de l'entreprise, il faut que nous puissions nous diversifier tant au niveau activité qu'au niveau produit, qu'au niveau marché, et travailler effectivement sur des zones géographiques qui sont des vecteurs de croissance plus forts pour l'entreprise que d'autres. Par exemple, on a créé une filiale au Japon. Ça peut paraître un petit peu bizarre pour une PMI française de créer une filiale au Japon et d'aller vendre des produits électroniques fabriqués à Angers.
On peut dire c'est courageux.
Oui, c'est audacieux.
Oui.
Mais en même temps, on a une vraie opportunité sur ce pays-là. Donc ce que je veux dire, c'est que bien qu'on n'ait pas développé de nouveaux produits spécifique au marché japonais, on pense qu'il y a un vecteur de croissance là-bas. Et donc, quand on regarde le développement des produits ou des marchés, le développement aussi de nos réseaux de distribution, plus de certaines zones géographiques, oui, je pense que tout cumulé, on a effectivement un certain nombre de bons signaux pour l'entreprise pour les années à venir.
Alors, un avantage, vous avez de la trésorerie nette, donc ça peut aider pour effectivement faire de la croissance externe, diversifier ou je dirais avoir un catalogue produits qui correspondent aussi peut-être à la demande qui est en train d'évoluer.
Alors, rien n'est jamais exclu, vous savez bien. Et qu'on est aussi là pour capter des opportunités. Je dirais que dans une perspective court terme, on est plus dans des opportunités de rachat de technologies que de rachat de sociétés pour nous permettre d'intégrer un certain nombre de technologies dans notre portfolio pour nous permettre, là encore, de mieux nous positionner sur certains segments de marché.
Vous avez redonné hein, au marché, comme on dit, la guidance de 2021 avec les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Si on reste sur 2019,
Oui.
qu'est-ce que vous dites aux investisseurs?
Je dis que globalement, on doit pouvoir tenir les 7% de croissance à taux de change constant. Et qu'en fonction des fluctuations, effectivement, ça c'est toujours le jeu des monnaies. Et comme on est soumis au dollar, au yen, voire à la monnaie indienne, dont j'ai maintenant oublié le nom, roupie, voilà, on peut avoir des fluctuations. Mais on parle bien aujourd'hui, on pense qu'on est confiant sur les 7% à taux de change constant sur cette année.
Merci Emmanuel Picot.
Merci.